sur la ville.
Encore parler ce soir de la dernière nuit, la nuit la nuit de la sortie d'Égypte. Le Ramban rapporte un dialogue entre Paro et Moshe Rabbeinu. C'est pratiquement le Midrashim. Paro dit à Moshe Rabbeinu, Koum, levez-vous et partez. Alors, on parle d'une situation bien connue. On est au milieu de la nuit. On est de nuit parce que Hachem a annoncé que la dixième plaie, la dixième maka, à minuit, dit Hachem, à minuit, je frapperai les premiers-nés égyptiens. À minuit, je frapperai les premiers-nés égyptiens. Et donc, à ce moment-là, Pharaon laissera partir mon peuple. Et donc, on est dans la nuit. Et à minuit, donc, Hachem frappe les premiers-nés égyptiens. Il y a une grande clameur dans tout le pays. Dans toutes les maisons, il y a des gens qui meurent. Alors, Paro recherche Moshe et Aaron. Je vous rappelle qu'il avait dit à Moshe qu'il voulait plus le voir. Il l'avait menacé, si jamais tu te représentes, je te tue. Là, il a cherché Moshe. Il l'a trouvé. Il lui a dit, partez. Alors, Moshe a répondu, nous avons un interdit dans cette nuit-là, un interdit de sortir de nos maisons jusqu'au matin. Donc, on ne partira pas avant le matin. Et de toute manière, on n'allait pas partir au milieu de la nuit comme des voleurs. Partir au milieu de la nuit, c'est partir en n'étant pas vraiment certain de son droit, en fait. Part en cachette. Part de telle sorte que les autres ne nous voient pas partir. C'est pour ça que mon cher Abbé nous insiste. On partira de jour. Paro a fait pression, il faut partir, partez, mais ça ne sert à rien. De toute manière, ce que Moshe a répondu, c'est qu'en fait, nous avons, nous aussi, des dinim particuliers cette nuit-là. Hachem a dit, personne ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Alors, on avait parlé déjà la dernière fois aussi de cette liberté, de cette Géoula qu'il aurait donnée à ce moment-là. Mais cette Géoula, elle est dite un peu de façon négative, c'est-à-dire Vous êtes libre, mais vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous. On est aux arrêts, quoi. C'est pas confiné. 2 jours, ils vont être libres de se déplacer, de bouger, etc. Mais 2 nuits, cette libération, cette Géoula, c'est une Géoula, mais avec une astreinte à ne pas sortir de chez soi. Le Sforno, il le dit en termes différents, il dit, je partirai pas quand toi tu le demandes. Je partirai plus tard, au matin. Dans Dvarim, de nouveau, le Ramban va dire, Hachem vous a sorti d'Égypte de nuit, là et là. Il y a quelque chose de spécial avec la nuit. Si vous regardez les trois dernières Makot, les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés, elles ont toutes à voir avec quelque chose qui, avec l'obscurité, si vous voulez. Les sauterelles, la huitième plaie, elles vont couvrir l'œil de la terre. C'est dire en termes de l'œil est couvert, donc tu ne vois plus rien. C'est vrai que le monde était rempli des sauterelles. J'étais en train de bouffer tout ce qui restait de après la grêle. Mais bon, c'est partout les sauterelles. La neuvième, les ténèbres, c'est les ténèbres palpables. D'une certaine manière, ils ne pouvaient même pas bouger. Et à minuit, bon, alors évidemment, on est en pleine nuit, et le mot Laïla, dans ce chapitre-là, il est dit au moins 4 fois. La différence entre la nuit et le jour, elle se dit en termes de est-ce qu'on peut se voir ou est-ce qu'on ne peut pas se voir? Les sauterelles et les ténèbres, ça concerne principalement les Égyptiens. Il n'y avait pas de sauterelles à Goshen, et durant les ténèbres, les Bnei Israël y voyaient clair. Mais la dixième plaie, les Bnei Israël confinés, ils sont obligés de rester chez eux, ils entendent des pleurs, des cris, des bruits, etc., mais ils ne peuvent pas bouger. Et pour les Mitzrim, pour les Égyptiens, les sauterelles, les ténèbres, c'est l'horreur. Les ténèbres, ça dure 3 jours. Au deuxième jour, comme je vous dis, ils peuvent pas s'asseoir, ils peuvent pas se lever. Il y a une forme de rigidité. Ils sont pris dans l'épaisseur des ténèbres. Cette rigidité, elle fait penser à la rigidité de Paro. Il est complètement rigide sur son refus de laisser partir les Bnei Israël. Tout le monde lui dit, tous ses conseillers, les magiciens, tout le monde lui dit, mais Laisse-les partir. Tu ne comprends pas que l'Égypte est perdue si tu ne les laisses pas partir. Mais lui, il est complètement rigide. Il bouge pas. Cette idée d'être complètement figé et rigide, ça se traduit par, d'une certaine manière, l'impossibilité de faire tchouva. Faire tchouva, il faut pouvoir faire demi-tour, quoi. Revenir en arrière. Et d'autre part, c'est une terreur paralysante, c'est-à-dire on ne peut pas répondre. On ne sait pas quoi faire, on n'a pas les moyens de répondre. Dans Tanhuma, on parle de Tsalmavet. C'est-à-dire, Tsalmavet, c'est le tsel, c'est l'ombre de la mort. C'est les ténèbres de la mort. C'est un chaos, c'est une cécité, c'est la mort. La vérité, c'est que dans la dixième plaie, pour l'Ebné Israël, c'est aussi totalement effrayant. C'est effrayant parce que ils sont entourés de gens, parce qu'on voit du reste du texte que il n'y avait pas un quartier juif, il n'y avait pas un ghetto ou une partie de la ville qui était consacrée aux juifs. Les maisons étaient côte à côte, les maisons juives et les maisons égyptiennes. C'est étrange, ça ressemble pas du tout aux représentations de l'habitat des esclaves qu'on a toujours devant nous, mais on a déjà dit combien cet esclavage était différent de l'esclavage grec ou Amérique du Sud de l'Amérique. Les Bnei Israël sont donc, ils sont confinés, ils sont en prison. Donc, la liberté en question, ça entraîne qu'ils sont en prison. Et puis, il y a toute cette manipulation du sang. Le sang du Corban Pessah. Le sang dont il va falloir badigeonner les poteaux, les linteaux. Alors, il se passe quelque chose de très, très étrange. La prison, elle est d'abord, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas sortir? Parce qu'il y a une règle qui dit que Kivan Shenitan Rushut la Mashrit. Une fois qu'on a donné la permission au destructeur, c'est-à-dire le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il a la permission de détruire les premiers-nés en Égypte. Alors, les premiers-nés d'Ebné Israël sont aussi en danger. Pour les sauver, il va falloir quelque chose de tout à fait particulier. Il va falloir qu'Hachem saute par-dessus les maisons d'Ebné Israël. C'est-à-dire, il va protéger les maisons d'Ebné Israël. Cette notion du sceau, ce sceau-là, il va donner son nom à l'agneau pascal qu'ils vont manger, et ça va donner son nom à la fête de Pessah. Pessah, Pessah, c'est Passover. Processus de Géoula, C'est sûr qu'en soi, pour des gens qui ont vécu toujours esclaves, c'est une nouveauté un peu effrayante. Ils n'ont pas de repères. L'esclave, il est esclave, mais il a des repères très clairs. Il sait qu'il est sûr d'avoir à manger. Il sait où il va vivre, où il va, etc. Même si c'est désagréable, même si c'est douloureux et tout, mais il sait où il est. Eux, maintenant, ils savent plus rien. Donc, étant donné que le Mashrit, il aurait le droit de tuer aussi les enfants d'Ibn Israël, alors Hachem a dit, si vous restez dans vos maisons, à ce moment-là, il ne vous arrivera rien. Mais interdit de sortir avant, parce que ce moment-là, on ne garantit plus rien. Alors, si on y regarde de plus près, toute cette nuit-là, elle va être racontée. Tu raconteras à ton enfant, à ton petit-enfant, etc. Qu'est-ce qu'on va lui raconter concernant la nuit en question? La nouveauté, l'extraordinaire, si vous voulez, c'est que là, on ne va pas du tout raconter à l'enfant, le soir du Seder, on ne va pas lui raconter ce qui s'est fait dans la nuit en question. On va lui raconter ce qui a été annoncé avant la Makkah. Mon cher Rabbeinu a reçu et il a transmis toutes les instructions d'Hachem. Plein d'instructions concernant la façon dont donc il va falloir se comment ça va se présenter. Et c'est le récit de ce qui a été annoncé qu'on va raconter le soir du Seder. Parce que l'essentiel, c'est fait, ce dont on va parler, etc. Tout ça, c'est avant le saut, avant le passage, avant qu'Hachem saute par-dessus les maisons. En passant que c'est marqué, Hachem dit. Donc, il a donné l'ordre de mettre le sang sur les poteaux, les linteaux. Et Hachem dit, je verrai le sang, etc. Mais Rashi explique, qu'est-ce que ça veut dire, je verrai le sang? Ne veut pas dire du tout que c'est en voyant le sang qu'Hachem va décider de sauter par-dessus les maisons. Rashi dit, le sang, ce sera seulement une indication. Et Hachem dit, je saurai alors combien vous êtes attachés à mes mitzvot. Et je sauterai par-dessus vos maisons. Hachem ne va pas voir le sang. Mais il va avoir l'attention aux mitzvot. D'ailleurs, le sang, vous le savez bien, il n'est pas du tout sur l'extérieur, comme si c'était un signe pour Hachem. Le sang, il est sur les poteaux et les linteaux à l'intérieur des maisons. Le sang est donc un signe pour les Bnei Israël qui sont à l'intérieur. pour que les bénis Israël sachent pourquoi ils sont épargnés. Ils sont épargnés parce qu'ils sont en train de faire une mitzvah prescrite par Hachem. Les bénis Israël, Hachem a décidé qu'il allait sortir d'Égypte. Mais premièrement, qu'on le dise, d'après les Midrashim, qu'on le dise d'après le Harizal. C'est-à-dire qu'on le dise de la manière suivante. Les bénis Israël devaient rester 400 ans en Mitzrayim. Ils sont restés 210 et 83 seulement. L'esclavage n'a pas duré 210 ans non plus. Mais les bénis Israël sortent avant les 400 ans. Pourquoi ils sortent avant? Ils sortent avant parce que même en sortant maintenant, il n'y a qu'un cinquième qui sort. C'est-à-dire que si on avait attendu un peu plus, il n'y a plus personne pour sortir. Le Harizal, il le dit autrement, mais c'est la même idée. Les Bnei Israël avait dégringolé. Les descendants d'Abraham, Israël, Yaakov, en Égypte, ils ont dégringolé jusqu'au 49e degré d'impureté. Il y en a 50 en tout. Mais 50, le 50e, c'est la mort. Le summum de l'impureté. C'est un cadavre humain, un cadavre de juif humain. Humain et juif. Donc il serait mort. C'est-à-dire il serait mort spirituellement. Peu importe que ça, il survit, que les corps survivent. En tout cas, spirituellement, il serait mort. C'est la même chose de dire qu'il n'aurait pas eu la force de sortir d'Égypte. Donc, les sortir prématurément. Mais puisque le temps qui était le temps fixé chez Avraham Avinu, il a été fixé comme étant un temps au bout duquel les Bnei Israël pourront sortir d'Égypte, sortir de l'esclavage. Et si on sort prématurément, alors c'est vraiment une prématurité. On n'est pas mûr. Pas mûr, ça veut dire, entre autres, qu'ils n'ont pas de mérite pour sortir. Bien sûr, Hachem peut faire n'importe quoi. Mais les règles qu'Hachem a fixées, c'est que pour sortir, il faut au moins que les Bnei Israël aient un certain mérite. Comment ils n'en ont pas de mérite, visiblement. Ça veut dire que de ce point de vue-là, ce qu'on dit que ils ont gardé les vêtements, la langue, les noms, etc. C'est pas suffisant pour justifier qu'ils sortent. Donc ils vont pas sortir. Donc Akadosh Baruch Hu va leur donner deux mitzvot. Deux mitzvot Et s'ils pratiquent ces deux mitzvot, alors ils auront le mérite d'avoir pratiqué les mitzvot, et du coup, on pourra les sortir. Ce sont deux mitzvot qui sont. La vérité, c'est que les deux mitzvot ne sont pas complètement indépendantes. La première mitzvah, c'est la Mila. Vous me direz, mais on connaît la Mila. Ça veut dire pourquoi il faut leur donner la mitzvah de Mila? Il faut leur donner la mitzvah de Mila parce que, à un moment donné, quand l'exil a commencé à être difficile, l'esclavage, les Bnei Israël, ils ont décidé qu'ils ne pratiqueraient plus la Mila. Dans l'idée, c'est si on réduit la différence entre les Égyptiens et nous, alors ils ne nous feront pas de mal. Donc, si vous voulez, la seule mitzvah que les Bnei Israël avaient à ce moment-là, c'est la mitzvah de Mila. OK, on va arrêter la Mila. Il n'y aura presque plus de différence entre les Égyptiens et nous. Donc avec ça, ils s'imaginent que ce processus d'assimilation va les aider. Mais là, le Midrash dit que HaKadosh Baruch Hu a dit, vous réduisez la différence. Bon, si c'est vous qui réduisez la différence, il faudra que ce soit les Égyptiens qui la marquent, la différence. Et du coup, le Midrash dit que les Égyptiens, quand ils voyaient un Israël, un Hébreu, ils vomissaient. Hachem a fait en sorte que les Hébreux dégoûtent les Égyptiens. Ils sont dégoûtés. Pourquoi? Parce que Hachem veut qu'il y ait une différence. Et si du côté des Bnei Israël on réduit la différence, alors c'est les autres qui vont mettre la différence. Donc les Bnei Israël avaient arrêté la Mila. Donc la première chose, c'est rétablir la Mila. Il faut circoncire tout le monde. Grosse affaire, quoi. Et la deuxième mitzvah, c'est ce sacrifice de l'agneau pascal qu'ils doivent faire. Vous allez prendre un agneau, vous allez l'égorger, etc. Et vous allez recueillir le sang, et le sang en question, vous allez l'asperger sur les poteaux et les linteaux de vos maisons. Et cet agneau pascal, vous allez le manger grillé, complètement grillé. Vous allez le manger sur le pas de la porte de vos maisons. Habillé, bon, en train de partir, quoi. Vous allez le manger avec des matzot et vous allez le manger avec du maror, avec des herbes amères. Un sandwich à l'agneau. Mais pas la sauce, mais bon. Les deux mitzvot. Alors, quand je vous disais qu'elles ne sont pas complètement indépendantes, pour pouvoir manger cet agneau pascal, il est impératif d'être circoncis. La Mila, c'est d'une certaine manière une façon de se rattacher à celui qui a reçu la première Mila, la première mitzvah de Mila, Avraham Avinu. Avec cette mitzvah-là, ils se remettent dans cette lignée. Je vous rappelle qu'on avait vu que le Rambam disait que durant l'esclavage, on a quasiment tout oublié de l'enseignement d'Abraham Avinu, à l'exception de la tribu de Lévi. Donc, quelque part, la Mila, elle va reconnecter les Bnei Israël avec la Mila. Et manger l'agneau pascal, c'est manger un animal sacré chez les Égyptiens, c'est se démarquer de l'idolâtrie ambiante. Donc, se connecter avec Abraham Avinu, d'une part avec la mitzvah qu'il a reçue, et aussi avec lui dans la mesure où c'est lui qui a rompu avec l'idolâtrie. Donc, quelque part, on se rattache à Abraham Avinu. Rattache au Avot. C'est-à-dire que pour sortir, il faut se rattacher au Avot. Pourquoi est-ce qu'il faut se rattacher au Avot? Parce que, comme on l'a déjà entendu, Kadosh Baruch Hu dira plusieurs fois que la raison pour laquelle les Bnei Israël sortent d'Égypte, effectivement, puisqu'ils n'ont pas de mérite propre, vraiment, c'est parce qu'Hachem l'avait promis et il s'est engagé auprès des Avot à les faire sortir, auprès d'Avraham Avinu, justement. Et donc, en se rattachant à Avraham Avinu, quelque part, il se met dans la situation de pouvoir bénéficier de la promesse qu'Hachem avait faite à Avraham Avinu que ses descendants sortiraient de cet esclavage. Il y a une deuxième chose, cette histoire du sang. Cet agneau qu'ils vont griller et manger, par la suite, ça va devenir une mitzvah. C'est-à-dire, quand ils ont eu mangé, ils ont eu fait ce qu'on leur a demandé de faire, ils ont mangé cet agneau. Alors le passouk à ce moment-là nous dit, Hachem leur dit, voilà, ce truc-là que vous avez mangé, on va appeler ça Pessah. En rapport, pourquoi Pessah? Pessah parce que c'est ça qui va donner comme conséquence qu'Hachem va sauter par-dessus vos maisons. Et Pessah, ça veut dire sauter. C'est le saut. Ouais. Donc, ce truc-là, on va l'appeler Pessah. Et dans les générations futures, on fera une fête, et la fête, elle portera le nom de Pessah. Donc, vous voyez, ce qu'eux ont fait, c'est qu'ils ont mangé un agneau qu'on leur a prescrit de manger. Ce qu'ils ont mangé n'avait pas de nom quand ils l'ont mangé. Ce qu'ils ont mangé n'était pas un corban. Vous l'avez mangé en l'honneur d'Hachem, sur l'ordre d'Hachem. Et ça va devenir un corban. Ça va devenir un processus de rapprochement d'Hachem. Mais il y a encore autre chose. Quand Moshe Rabbeinu, ils ont négocié avec Paro que Paro voulait pas laisser partir. Puis après, oui, vous pouvez partir, mais seulement les hommes. Et après, mais pas les troupeaux. Et puis après les troupeaux, mais pas les enfants, etc. Donc, Paro ne voulait jamais céder, alors que savait très bien que ce qu'Hachem demandait, c'est tout. Hommes, femmes, enfants et troupeaux. Et puis, ce qui se passe encore, c'est que ce qui se passe encore, c'est que Paro, à un moment donné, il dit à Moshe, écoutez, vous allez, ok, je vais vous laisser partir, pas tous, bien sûr, mais en vérité, regarde, le thème astral du clan Israël, il a la planète rouge en plein. Ce signe-là, dans les règles, selon les règles de l'astrologie, ça annonce du sang versé, ça annonce des morts. Alors vous feriez bien de laisser vos enfants à la maison. De toute manière, vos enfants, ils vont pas servir Hachem. Parce que sinon, vous allez au-devant de tragédie avec cette histoire. Bon, alors Paro n'a pas Moshe Rabbeinu n'a pas cédé, il n'a pas tenu compte directement de ce que disait Paro. Mais en fait, ce sang à l'horizon, ce sang de mort que cette planète rouge, disons, dans le thème astral indiquait, on voit dans la Torah que la Torah n'a pas pu ou n'a pas voulu, ou peut-être ça fait partie des règles du monde, on n'a pas voulu faire comme si ça n'avait aucune importance. Par contre, ça veut dire que il va falloir faire quelque chose avec ce sang. Mais le quelque chose qu'on va faire, c'est le transformer d'un sang de mort en un sang de vie. Et c'est ça qui est fait avec ces deux mitzvot. Pourquoi Hachem a donné justement deux mitzvot qui ont à voir avec le sang? Parce que ça permet de régler ce problème. Quand on fait la mila d'un enfant, on dit à ce moment-là, la souk de Yecheskel, Bedamaich chayi, dans ton sang, avec ton sang, vie. C'est un sang de vie, pas un sang de mort. Donc on a transformé. L'idée, c'est que, qu'est-ce qu'on disait? Il était en train de dire que les Bnei Israël étaient il était en train de naître sous une étoile, sous une influence sanglante, si vous parlez comme ça. Mais dans le sanglant, on a, comme dans tous les autres domaines, on a tout l'éventail des comportements. Quelqu'un qui naîtrait dans cette circonstance-là, alors il peut devenir bandit des grands chemins, assassin, il peut devenir chirurgien, il peut devenir Chochet, il peut devenir Mohel, etc. Donc il y a tout l'éventail des usages du sang, depuis les plus élevés jusqu'au plus bon, plus bas, au plus grave. Ce qu'Hachem a fait, c'est qu'il leur a donné cette mitzvah. Et du coup, cette mitzvah, elle permet de régler le problème du sang. Maintenant, ce qu'ils ont mangé, la façon dont ils l'ont mangé, ça va être le modèle de la mitzvah de Korban Pessah. La fête dont on a parlé va devenir une fête et vous allez apporter toutes les années un korban qui s'appelle Korban Pessah, qui va ressembler énormément à ce korban, à ce que vous avez mangé là, qui après que vous l'ayez mangé, c'est appelé Pessah. Que vous allez faire, quand vous allez recevoir la Torah, vous allez recevoir une mitzvah qui s'appelle Korban Pessah. Un processus qui s'appelle Pessah. Alors, dans le Korban Pessah, on va aussi mettre de côté un agneau 4 jours avant pour vérifier qu'il n'a pas de défaut majeur qui fait que on peut pas l'accepter comme Korban. Les Bnei Israël, ils avaient mis aussi l'agneau. Vous vous souvenez, on disait que l'agneau, il était accroché au montant du lit. Mais là-bas, c'était une provocation pour les Égyptiens. Les Égyptiens qui entraient, ils disaient, mais qu'est-ce que vous faites avec un agneau? Ils disaient, on va en faire la shrita. Et donc, imaginez, pour bien comprendre, il faut s'imaginer que vous avez attaché au montant de votre lit une vache sacrée en Inde. Et quand l'hindou, il vous demande qu'est-ce que tu vas faire, tu dis, on va faire un méchoui avec ta vache. Je pense que vous finirez pas la parole, la phrase. Tout ce qu'il est avant, quoi. Mais les Égyptiens ne pouvaient rien faire. Mais maintenant, qu'est-ce que vous appelez? Ils ont aspergé. Aspergé. Ils ont fait un travail avec le sang. Eh bien, quand on apportera un corban, on fera aussi un travail avec le sang. Comme eux, ils ont récolté le sang pour l'asperger, on va récolter le sang et on va asperger, c'est-à-dire on va envoyer des gouttelettes de sang en direction de l'autel, de Misbéach. Et ils l'ont mangé, eh bien, un corban pessar, ça sera aussi mangé. Et ça sera mangé après que cela aura été grillé, exactement comme eux, ils ont grillé l'agneau pascal, l'agneau qu'ils ont mangé avant de partir. Grillé à cœur. Donc, deux parties, comme dans tous les corbanotes qui sont, sauf l'Holocauste, qui est un corban qui est entièrement consumé, mais autrement, d'abord, la première chose, on traite le sang, c'est-à-dire on fait ses aspersions. C'est ça qui apporte la kapara sur un korban. Le korban, il est là pour apporter la kapara. C'est l'opération avec le sang qui apporte la kapara. Et ensuite, quand ce travail-là a été fait, il y a une mitzvah de manger la viande du korban. Et la viande du korban, ça se mange, mais ça se mange en se rappelant que cette viande, elle a de la kdoucha, et toute chose qui a de la kdoucha, doit être mangée, doit être mangée dans des limites d'espace et de temps. C'est-à-dire, ils pourront le manger à la maison. Le korban pessah, c'est un korban qu'on fait, mais ensuite, pour le manger, on peut le manger à la maison. Vous pouvez l'emporter, le griller à la maison. Et maintenant, cette idée que il pouvait pas sortir de la maison ce soir-là, bien, cette idée-là, elle va devenir l'idée suivante. Le Korban Pessah, il est tout à fait particulier. Parce que dans les korbanot, il y a deux sortes de korbanot. Il y a ce qu'on appelle le korban yachid, le korban d'un individu ou d'une individu, ou le korban du tzibour, Le corban qui est apporté au nom de la collectivité, au nom de tout le tzibbour. Le corban Pessah, il est un peu entre les deux. D'une part, c'est un corban yachid parce que chacun doit manger son corban, de chaque famille, mais bon, disons, il n'y a pas un corban pour tout le clan Israël. Mais d'un autre côté, tout le monde fait exactement la même chose au même moment. Et donc, c'est une espèce de corban yachid qui a des caractéristiques qu'on retrouve dans le corban tzibour. Et puis, pour fabriquer cette dimension de tzibour, alors on va exiger que le corban soit le corban d'une famille ou d'une famille élargie ou d'une famille élargie avec des amis, mais que ce corban-là, il soit acheté en commun par un groupe de gens. Voilà. Disons que nous, on veut y faire un corban. D'accord? Alors, il faudrait qu'on, un groupe qui serait dans le groupe, un groupe du Beth Amidrash, par exemple, on pourrait dire, OK, alors on va apporter un corban. Tout le monde va contribuer à l'achat du corban. Et puis, on va acheter un agneau. Mais on va calculer quel genre d'agneau il faut s'acheter. Parce que, comme tous les corbanotes, il faut les manger, comme je vous dis, dans un certain laps de temps. D'une part, et d'autre part, il faut que chacun, dans le Corban Pessah, chacun en mange la grosseur d'une olive. Alors, disons que la grosseur d'une olive de cette viande-là, vous voyez, c'est 30 grammes. Donc, on va regarder combien il y a de personnes qui vont manger ce corban, les hommes et les femmes. Et puis, on va multiplier par 30 grammes. Et on aura la quantité de viande dont on a besoin. Et quand on saura combien de viande on a besoin, alors on demandera à Annie de nous dire quel poids d'agneau il faut acheter pour avoir cette quantité de viande. Alors, si Annie ne le sait pas, on demandera à son mari. Bon. Et donc, voilà, on a besoin de tout le monde. On a besoin des. Et donc.
60, même pas 60% du poids vivant.
C'est ça. Donc, voilà, ça va nous faire. Imaginez qu'on ait besoin de 9 kilos de viande. Eh bien, c'est, disons, si c'est 9 kilos, c'est 50%. Etc. Donc, il faudra un agneau de 18 kilos. Bon, alors, on ira acheter un agneau de 18 kilos. OK? Et ça nous laissera 9 kilos de viande. Et chacun mangera un kézaït. C'est très bien. Et comme c'est calculé exactement, on peut pas aller manger chez les copains. On sera obligé de manger avec le groupe avec lequel on a acheté. Là, à ce moment-là, tu peux choisir tes copains. Mais une fois que tu as décidé que tu vas manger avec le groupe numéro 14, tu ne peux pas aller manger avec le groupe numéro 15. Tu vas être obligé de manger. Donc, tu ne pourras pas bouger, parce qu'il faut, il faut rester ensemble. Tu ne pourras pas aller te promener. Ça ressemble à cette idée, vous ne pouvez pas sortir de la maison, quelque part. Donc, si vous voulez. Ce qui a été prescrit n'a pas été prescrit en tant que corban, etc. Et c'est pas un rituel. Ouais, on leur a dit de faire un truc. Et puis ensuite, on a dit, mais ce que vous avez fait, ça va s'appeler Pessah et ça va devenir un corban. Parce que le corban Pessah, il doit être mangé à la sova. Il doit être mangé quand on est déjà rassasié. Donc, on ne peut pas compter qu'ils vont pouvoir en manger beaucoup, puisque s'ils sont déjà rassasiés. La nuit de Pessah, on ne mange pas la viande du Korban Pessah. On mange n'importe quel, enfin, on mange une autre viande. Mais à la fin du repas, on apportait, on mangeait une partie, chacun la grosse, 30 grammes, on avait dit. Chacun a mangé les 30 grammes de viande grillée, là, accoudé sur le côté gauche, etc. Et nous qui n'avons pas de corban, on va essayer de trouver un équivalent. Alors, il faut savoir que quand on ne peut pas faire la mitzvah comme on doit la faire, on ne la fait pas approximativement. On fait quelque chose de tout à fait différent, mais qui est réminiscent ou qui fait penser à la mitzvah. Alors, par exemple, disons qu'on ait besoin d'un étrog à Soukhot. Et disons qu'il n'y a pas d'étrog. Alors, on ne prendra pas un citron qui ressemble à un étrog. D'accord? Si on devait prendre quelque chose, on prendrait plutôt une banane qu'un citron. Quelque chose qui rappelle. Qui rappelle, oui, parce qu'on le décide ou parce que ça rappelle naturellement. Pardon? Mais justement, on ne veut pas, parce que ça, c'est presque la même chose qu'un étrog, et on ne veut pas la confusion. On veut pas que ça puisse. Que ça rappelle, on veut que ça rappelle, mais pas par la nature. Ça rappelle d'une autre manière. Donc, qu'est-ce que nous, on fait? Nous, à la fin du repas, on mange quelque chose. Et ce quelque chose-là représente, c'est pas du tout le Korban Pessah, mais il nous rappelle, il nous représente le Korban Pessah. Et on n'est pas allé chercher quelque chose d'extravagant. On a décidé qu'on allait manger un morceau de matzah. Vous me direz, mais la matzah, on l'a déjà mangée au titre de la matzah. Il y a une mitzvah de manger la matzah. La matzah qui était sur le plat de Seder, cette matzah-là, on l'a mangée au moment de faire la mitzvah d'Achilat Matzah. Alors, maintenant, on reprend un morceau de matzah. Alors, cette matzah-là qu'on reprend, on appelle Afikoman, elle est un petit peu différente des autres de la matzah qu'il y avait sur la table. On l'a prélevée à un moment avant le récit, on l'a prélevée au moment de Yahatz, quand on a cassé en deux une des matzot et on a mis le gros morceau de côté pour l'Afikoman. Et on l'a mis de côté. Et par conséquent, il est en général enveloppé. Et alors, il faut rappeler la chose suivante. Au début du Seder, au début, on présente la matzah, la lachma aniya. On dit la matzah, c'est le pain du pauvre, le pain de misère, le pain d'esclavage. Et on montre la matzah, la matzah qui est sur la table. Et puis, quelques temps plus tard, après tous les récits, au moment où on va manger la matzah, on présente la matzah comme étant le pain de la liberté. C'est le même pain. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pain? Ce pain, au début du Seder, tu l'appelles le pain de misère, le pain d'esclavage. À la fin du Seder, tu l'appelles le pain de la liberté. Alors, ce qui lui est arrivé à ce pain, c'est quelque chose de particulier. Yom Tov ou Shabbat, quand vous mettez le pain sur la table, en général, on le couvre, pour le kiddush, on le couvre. Alors, on le couvre pour le kiddush parce que normalement, quand on a devant nous du pain et du vin, on devrait faire la bracha sur le pain avant sur le vin. Donc, comme nous, on fait kiddush avant, Alors on le couvre pour que il ne voit pas. Il y en a d'autres qui mettent pas du tout le pain sur la table à ce moment-là. Mais il y a aussi un autre sens à la couverture, c'est que la challah, le pain de Shabbat, il fait référence aussi à la manne. Et la manne, quand elle tombait, elle était enveloppée de rosée, couverte de rosée. Et donc, on couvre le pain en rappelant de la sorte l'histoire de la couverture de rosée de la manne. La matzah qui est sur la table, au moment du récit, on découvre la matzah. Et on fait la quasi-totalité du repas, du récit à matzot découverte. On ne les recouvre que quand on prend, quand on va boire quand on va boire du vin et on va faire boire la gaffel. Alors on le recouvre de nouveau pour la même raison que je vous ai dite sur le kiddush. Après, de nouveau, on découvre. Et le fait de découvrir la matzah durant le récit, ça fait que on pourrait dire que la matzah, elle a été bombardée par le récit. Et c'est ce bombardement du récit avec le déroulement du récit qui fait évoluer la matzah du pain de l'esclavage au pain de la liberté. Vous voyez, c'est un bombardement. Ceci étant, tout ça c'est vrai pour la matzah qu'on mange durant le repas. Mais la matzah qu'on a mise de côté pour la ficomane, elle est couverte. Elle est recouverte, elle est dans une enveloppe ou sous une serviette, etc. Et donc, elle n'a pas évolué. C'est la matzah. C'est la matzah telle qu'on va la manger dans les 8 jours pendant les 8 jours de Pessah. C'est de la matzah. Elle n'est pas ni pain ni pain comme ci, ni pain comme ça. C'est de la matzah point barre. Donc, c'est cette matzah point barre qu'on investit du rôle de, tu vas jouer le rôle du Corban Pessah. C'est pas un Corban Pessah, bien sûr. Mais c'est parce que on va dire que comme ça se mange, la ficomane, c'est un dessert, oui. On va le manger en dessert, c'est-à-dire quand on a fini de manger, quand on est déjà rassasié, alors cette matzah qu'on va manger, alors elle peut jouer le rôle d'un rappel de la mitzvah de Achilat Korban Pessah. Et donc on va la manger pour soi, c'est une mitzvah pour soi. Je la mange au titre du Korban Pessah. Pas comme remède seulement, c'est seulement réminiscent de. C'est pas du tout le Korban Pessah. Alors, revenons à. Je me suis un peu égaré là. Le sceau, au sens du Pessah, oui. Le sceau dont on. Il n'est pas dans le récit de la sortie d'Égypte. Il est avant. Dans le texte de la Torah, il se situe à la fin des halakhot qui sont concernant les lois qui concernent le Korban Pessah qu'ils vont manger, à la fin du chapitre 12 du Sefer Shemot. Qui prépare le peuple au récit qu'on va faire dans le futur. C'est-à-dire avant la réalité de la Géoula, avant qu'on en soit arrivé à la Géoula, Hachem énonce déjà la question qui sera posée par les générations futures. On est dans la question du fils au père. Va lui demander qu'est-ce que c'est que ce rituel-là que tu fais. La question c'est, qu'est-ce que tu entends avec tout ce rituel? Eh bien, la réponse. La réponse, c'est ce saut-là. Hachem a sauté par-dessus. Donc, c'est ça mon Corban Pessah. Ce qui est intéressant, c'est que dans la question qu'on a traduit par c'est quoi ce rituel? La question c'est Ma ha'avoda azot. C'est quoi cette avoda? Le mot avoda, il veut dire travail. Mais ce mot avoda, c'est le même mot qu'on utilise pour parler du travail des esclaves. Donc on appelle avoda aussi bien le travail des esclaves que le rituel du soir de Pessah. C'est avoda. D'ailleurs, tout ce qu'on fait au Beth Amikdash va s'appeler avoda. C'est paradoxal, si on veut. On appelle avoda ce que nous faisons, nous, pour nous rappeler la avoda des esclaves en Égypte. Alors, en Égypte, le peuple, quand il a mangé l'agneau en question, il l'a mangé avant le sceau d'Hachem par-dessus les maisons, avant le Pessah. Mais dans le futur, c'est-à-dire nous, le Père, il va expliquer le Corban Pessah, le rituel du sacrifice de l'agneau pascal, en le nommant et en le rattachant au sceau de la Géoula. À l'enfant, on va lui raconter le sceau et toute l'histoire en termes de, au moment de la Géoula. Mais dans la Torah, on n'en parle pas au moment de la Géoula. On en parle avant, c'est annoncé à l'avance par Moshe Rabbeinu, par Hachem donc. Donc ce sacrifice va devenir le sens même de la fête en question. Ça va être ce qui est central dans la fête en question. Mais en temps réel, cette nuit-là, on est concentré pas du tout là-dessus. On est concentré sur les lois. C'est-à-dire, on parle de cet agneau qui n'a pas encore de nom. Il s'appelle pas encore Pessah à ce moment-là. Bon, on en parle. On parle du sang sur les poteaux. On parle de manger la grillade. La nuit, on a fait en acte ce qui a été annoncé à Moshe Rabbeinu et par Moshe Rabbeinu après au Bnei Israël. Ça n'est qu'après la consommation que le korban en question reçoit son nom de korban Pessah. On va l'appeler Pessah Mitzrayim. Mais il n'y a pas eu de Pessah Mitzrayim. Quand ils l'ont mangé, ce n'était pas un Pessah. Deux. Oui, le nom du Corban Pessah. Et ce nom-là, il a été donné après qu'ils aient mangé cette grillade. On leur a donné l'ordre de manger un agneau, mais on ne leur a pas dit que c'était le Pessah. Pardon? On parle de. Parle des lois, de lois tu vas le griller de cette manière-là, tu vas le manger avec des matzot, tu vas le manger avec du maror, tu vas le manger les chaussures aux pieds, la ceinture aux reins, le bâton sur le pas de la porte. Avant?
Avant,
Non, mais quand on l'a mangé. Oui. Alors, en temps réel, donc, on est concentré sur les actions à faire. Ce qui se passe, c'est qu'Hachem va répondre au travail que les Bnei Israël vont faire. Le travail de, le travail du sang, le travail de manger, de griller, etc. Hachem va répondre comment? En sautant par-dessus les maisons. Et après tout ça, Hachem annonce que ce qui s'est passé et qui a été préannoncé à Moshe Rabbeinu va devenir fait pour Hachem pour toutes les générations. En d'autres termes, les vrais événements de la nuit ne sont pas racontés. On raconte plutôt une préannonce d'Hachem à travers Moshe, dans un cadre complètement légal du récit de la nuit, quoi. Donc, si on veut résumer, le peuple sacrifie un agneau, il le grille, il le mange, etc. Cet agneau qui va être appelé plus tard, il va être appelé Pessah, et Hachem répond en sautant par-dessus les maisons. La causalité, elle fonctionne à l'envers, quoi. C'est intéressant qu'on, nous, on va manger un agneau qui s'appelle d'après le sceau, qui en fait, le sceau a eu lieu seulement après qu'on ait mangé l'agneau. Donc, on avait déjà dit que cette histoire de causalité, dès le départ, Hachem avait dit, je veux pas, je vous demande pas de raconter ce que j'ai fait. Parce que je l'ai fait, parce que je l'ai fait. Mais non, c'est pas du tout comme ça. C'est moi qui le fais pour que vous puissiez le raconter. L'important, c'est le récit. Alors, on a dit, pour les Bnei Israël, ils sont, cette nuit-là, ils étaient un peu prisonniers, etc. À ce moment-là, ils sont expulsés par Paro. Paro veut les expulser. Partez, je vous chasse d'Égypte. Et ils résistent. Ils disent, mais non, mais ils bougent pas de chez eux. Cette immobilité, en quelque sorte. Nous, on va l'interpréter par on est sur le pied de guerre, on est prêt à partir. Donc, il mange cet agneau-là, au moment où il n'est pas encore nommé, et il le mange dans la hâte. Ils vont le manger rapidement parce qu'on n'a pas le temps de s'attarder, on va partir. Mais curieusement, Rashi, par exemple, il traduit cette béhala par panique. Mais c'est une drôle de panique parce que c'est une panique qui est planifiée. On leur a dit, vous allez sortir, etc., et vous allez le manger dans la béhala. On dit, Bibhilou Yatsanu Mimitsraïm. Dans la Béhala, nous sommes sortis d'Égypte. Il y en a qui disent ça. Rambam me dit qu'il faut commencer le récit de la sortie d'Égypte en disant ça. Je crois qu'il y a les Sfaradim qui disent Bibilou et d'autres qui disent Etmol. Avec le plateau. Les Ashkenazim, ils disent rien. Donc, dans la. Aujourd'hui, on appelle ça le narratif, le récit, Blas, ouais. Le récit, le narratif de la nuit. Il commence par jouer avec le jour et la nuit. Paro veut. On part de nuit, et Moshe Rabbeinu, Boro, on va partir de jour. Le couple jour et nuit, c'est un des fameux couples. Il y a toutes sortes de couples dans la Torah. Pourquoi est-ce que l'Égypte veut que nous partions dans la nuit. Alors, si on entend bien ce que Moshe Rabbeinu lui rétorque, ils veulent qu'on parte dans la nuit, bon, parce qu'ils veulent qu'on parte tout de suite. Mais comment se fait-il que ce soit justement la nuit? Parce qu'ils veulent qu'on parte comme des voleurs. Ils veulent qu'on parte. C'est comme si, effectivement, on a pu partir parce qu'ils ne nous ont pas vu partir. Mais s'ils nous avaient vu partir, nous aurions empêché de partir. Et Moshe Rabbeinu nous dit pas du tout. On va partir aux yeux, aux vues de tout le monde. Tout le monde va voir que nous partons et que vous ne pouvez rien faire. Au contraire, vous êtes obligés de nous aider à partir. Ça fait partie de la démonstration de la puissance d'Hachem. Pardon? Oui, non. Oui, bien sûr. Mais Paro, ça représente l'Égypte. L'Égypte ne voulait pas. Il voulait qu'on parte, mais il voulait qu'on parte comme des voleurs. Il voulait pas, au début, il voulait pas qu'on parte, mais après, quand ils sont obligés qu'on parte, alors au moins qu'on parte comme des voleurs, parce que quand même pas partir au vu et au su de tout le monde, qui montrerait que voilà, l'Égypte est complètement défaite. Elle ne peut pas s'opposer au départ des anciens esclaves. Hachem veut montrer, on part quand on veut, en plein jour, on part Biyad Khazaka, toute puissance. Ça fait partie de la démonstration de la sortie d'Égypte. On ne part pas honteux, on ne part pas, s'enfuit pas, pas. Voilà, on va s'arrêter là.
Vont sortir là, fièrement et tout. Et quand ils en parlent, choses des chers aux Égyptiens.
Ils ont emprunté, si vous voulez, dans le processus de sortie de cette manière-là, il y a comme un grain de sable, parce que tout à coup, Hachem dit à Moshe, s'il te plaît, demande aux Bnei Israël qu'ils empruntent. Mais si on emprunte, ça veut dire qu'on va revenir. Et si on part après avoir emprunté, ça veut dire qu'on va revenir. Et donc, il y a des Bnei Israël, ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Comment tu peux nous demander d'emprunter alors que tu nous as de... alors que nous, on sait qu'on ne va pas revenir?
On peut éviter de ressortir glorieusement.
Non, ça oui, on peut dire qu'on peut dire qu'on est parti glorieusement dans la mesure où on est quand on part et on va, c'est glorieux, c'est pas glorieux moralement, mais c'est glorieux au sens où on montre la toute-puissance. On est parti, vous pouvez pas vous opposer, on vous doit des trucs et on part avec vos trésors.
Les objets. Le fait d'aller, mais partir, puis je vois la voisine, je suis fière, je suis contente, fière, et je vais lui dire en chantant de ça.
Mais en fait, on leur a rien dit à eux. On est parti et peut-être que c'est très possible qu'au moment où on est parti, sur le moment, personne n'a rien compris, personne n'a rien ressenti, parce qu'ils étaient tellement soulagés qu'on s'en aille, que les morts arrêtent de mourir, que c'était ça leur souci. Mais après, je vous ai dit, après que quand ils ont demandé, l'époque d'Alexandre le Grand, on a parlé déjà de ça. Mais justement, c'est comme si Hachem, il a demandé qu'on fasse quelque chose qui normalement voudrait dire qu'on va revenir. Comme s'il a demandé aux Bnei Israël de partir en faisant un geste qui montre qu'ils vont revenir. Et donc ça, c'était difficile pour les Bnei Israël, c'est très difficile d'admettre ça.
Par rapport à ce que vous avez expliqué sur le fait qu'on a mangé l'agneau et on a mangé l'agneau et on repense à chaîne la sauté, c'est la conséquence. Et ensuite, dans le récit, on mange parce qu'à chaîne la sauté, la fidélité inversée, vous avez
Eux, ils ont mangé avant qu'Hachem ne saute. Et nous, maintenant, nous, on mange quelque chose qui s'appelle Pessah et qui a son nom à cause du saut. Donc, quand on mange, on sait déjà qu'il va sauter. Il n'est pas, au départ, ce n'est pas une mitzvah. C'est un commandement, mais ce n'est pas présenté comme une mitzvah. Directement, on pouvait dire c'est une des mitzvot. C'est pas la mitzvah de Korban Pessah qu'il y aura par la suite. Oui, une des deux mitzvot avec du sang qui nous permet de sortir. Mais le souvenir qui aura intégré le fait que. Et ça s'appelle un Korban, nous, chez nous, on va appeler ça un Korban Pessah. Il porte le nom du sceau. Alors que dans le récit qu'on va faire le soir du Seder, le sceau, il vient assez tard. Il vient à la 10e plaie.
Teilim?
Pardon?
On fait les Teilim?
Oui, bien sûr.
Je sais, mais c'est...